Chers sœurs et frères, mes chaleureuses salutations à chacune et à chacun de vous. Je vous salue avec affection fraternelle. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous parler et un honneur de pouvoir m'adresser au cher peuple francophone de par le monde. Chers sœurs et frères, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Une question très importante pour notre vie spirituelle et qui peut nous aider à avoir la crainte des dieux, cette crainte saine qui nous garde dans la voie droite. Est-ce qu'il y a des conséquences du péché? Est-ce que Dieu permet qu'il y ait des conséquences quand on a péché? Même si on se repent, est-ce que Dieu permet, même après le pardon, qu'il ne nous empêchera pas de recevoir la récompense éternelle, mais est-ce que Dieu permet-il qu'il y ait des conséquences? Parce que lui, il est un Dieu d'amour. Et ce que peut nous perdre pour toujours, c'est de pratiquer le péché. Donc, Dieu, dans son amour, chers sœurs et frères, comme nous allons l'étudier aujourd'hui, je m'adresse de façon très spéciale à la jeunesse, parce que ils veulent commencer à expérimenter ce que le monde veut leur offrir. Et je crois que ce message et la sagesse que Dieu a consignée dans sa parole peut être extrêmement utile pour nous, qui avons été appelés par Dieu à la connaissance du bien et du mal. Mais de quelle façon? C'est ça ma question, chères sœurs et frères. Pour commencer à répondre à cette question, je vous invite et je vous prie de vous reporter au livre de la Genèse, où c'est le commencement où nous commençons à trouver une réponse à cette question, chères sœurs et frères. Au chapitre 2 du livre de la Genèse, on nous dit, si nous pouvons ici, si vous voulez entrer dans le récit biblique, au chapitre 2, verset 8, je vous invite à vous reporter là-bas. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Vous voyez, Dieu ne voulait pas nous interdire le plaisir et la joie de goûter tellement de choses merveilleuses qu'il a fait pour nous. Il veut simplement nous interdire ce qui est mauvais pour nous. Il est amour. C'est ça ce qu'il faut comprendre tout d'abord. Et d'ailleurs, maintenant j'y pense, il faudrait qu'on fasse une étude, mais pas aujourd'hui, parce qu'on va répondre à une question qui est déjà posée. Pourquoi Dieu nous donne sa loi? C'est une étude intéressante que je vous invite à faire, que vous regardiez surtout dans le livre du Deutéronome, les raisons à partir du premier chapitre, le premier 15 chapitres par lesquels Dieu donne les statuts et les lois et les décrets au peuple. C'est pour que tout ce qu'ils font, pour que tout ce qu'ils fassent dans leur vie ait du succès. C'est la seule raison, chers amis. Dieu est amour. Mais on continue ici, donc. Il a fait pousser, au chapitre 2, verset 9 de la Genèse, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors voyons l'instruction. On y revient toujours. Les leçons qui sont enfermées, qui s'enferment dans ces paroles éternelles des dieux, toutes paroles qui nous font vivre, ont toujours une signification renouvelée et plus profonde, plus utile pour nous dans nos vies, chers amis. On continue donc au chapitre 2, verset 15 de la Genèse. 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà le paradis, chers amis. C'est ce qu'on rêve tous d'avoir un jour, un endroit comme un petit paradis pour cultiver, pour garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. On vient de lire qu'ils étaient très agréables à voir et très bons à manger. Donc Dieu, son intention, ce n'est pas de nous interdire ce qui est délicieux, ce qui nous cause plaisir. Tout ce qu'il veut, c'est que nous ne mangions pas ce qui va nous faire mal, ce qui va nous empoisonner, ce qui va nous causer la mort. Chers amis, physiques ou spirituels même, voilà. Il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, verset 15, pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc vous connaissez bien la suite de l'histoire. Nous pouvons continuer maintenant au chapitre 3 de la Genèse. Et nous voyons comment, quand Dieu a fini d'instruire Adam et Ève, il s'est retiré pour un certain temps et il a permis l'entrée de Satan, du serpent ancien qui trompe, qui séduit le monde entier. Le voilà, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Nous venons de lire ce que Dieu a dit, « Tu peux manger de tous les arbres, avec l'exception d'un seul. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. » Vous savez, le Christ a dit clairement, quand le diable parle, il parle le mensonge parce qu'il est le père du mensonge. Vous le trouvez au chapitre 8 et verset au chapitre 8 de l'Évangile des Jean. Évangile des Jean, chapitre 8. Voyons cette écriture, c'était très important, parce qu'à partir de cette phrase du diable, et ça c'est un autre sujet, toutes les croyances dans le spiritisme, que les morts viennent quand on les invoque, sont fondées sur cette séduction, sur ce mensonge, chers sœurs et frères. C'est les démons qui viennent, et les gens croient que ce sont les âmes des morts, quand la Bible dit clairement, que les âmes meurent, et vous le savez bien, mais voilà, il y a pas mal, tellement de sujets, mes amis. Bon, le Christ a dit, dans le chapitre 8 de l'Évangile des Jean, il dit, « Vous êtes de votre père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été un assassin de le commencement, je suis en train de traduire ici d'une autre version, chers amis, il n'est pas resté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il parle mensonge, il parle de ce qui est à lui parce qu'il est menteur et père du mensonge. Donc le voilà, le premier mensonge enregistré ou consigné pour nous dans les Écritures, chers sœurs, amis, chers sœurs et frères. On continue au chapitre 3 de la Genèse. On a beaucoup de terrain à couvrir aujourd'hui, beaucoup de sujets, chers amis. Les yeux de l'un de l'autre. Voilà, chapitre 3. Il a dit, non, vous ne mourrez pas, mais écoutez bien ça. Au chapitre 3, verset 4, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà. Vous savez que l'explication qu'on utilise le plus dans l'Église, bien sûr, c'est le moment où l'homme et la femme ont choisi eux-mêmes de définir le mal et le bien et d'établir un monde qui était d'après les lois humaines, d'après les décisions humaine de ce que le bien et le mal, fondée sur l'expérimentation, mes chers amis. Et voilà, donc, on continue au verset 7. Quand ils ont mangé, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et avant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. C'est intéressant que quand on pêche et on ne se repent pas, chers amis, on se cache des dieux, on cherche les ténèbres. Voyez l'explication que le Christ dit à ces sujets, chers amis, comme une illustration que nous voyons dans le Nouveau Testament. Et nous voyons que tout est lié. Par exemple, gardez-moi ces écritures-là dans le livre de la Genèse, parce qu'on va y revenir. Mais voyons par exemple maintenant le chapitre 3 de l'Évangile des Jean, au verset 20. Chapitre 3, verset 20 de l'Évangile des Jean. Car quiconque fait le mal est la lumière. Souvenez-vous que le Christ est la lumière. Il a dit lui-même, il y a tellement de choses, c'est merveilleux comme la Bible commence à s'interpréter d'elle-même. Le Christ a clairement dit, au chapitre 8, verset 12 du même Évangile, chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous savez que c'est écrit aussi dans le livre des psaumes, au psaume 119, « Ta parole est une lampe et une lumière à mon sentier. » On retourne maintenant au chapitre 3 de l'Évangile des Jean. Verset 20, chapitre 3, verset 20, « Car quiconque fait le mal est la lumière. » C'était Dieu, c'était le Christ avant son incarnation qui s'est promené dans le jardin et se sont cachés de la lumière. Et puis on continue, « Et ne vient point à la lumière des peurs que ses œuvres ne soient dévoilées. » Ça, c'est la nudité, c'est la conséquence du péché. Quand on ressent qu'il y a des conséquences qui nous affectent. Voilà, on continue alors. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées par ce qu'elles sont faites en Dieu. Alors voilà la réaction qu'ils ont eue. Il n'y a pas eu de repentir. Ils se sont cachés parce qu'ils ne voulaient pas être exposés à la lumière et leur nudité qui était cette conscience du péché. Ils ont expérimenté les conséquences du péché. Ils ont connu qu'est-ce que c'était que le bien et le mal par l'expériment, en subissant les conséquences du péché. La toute première conséquence, ils avaient honte. Ils voulaient se cacher. Ils ne voulaient pas être exposés à la lumière. Voilà la conséquence du péché. On veut continuer à vivre dans le péché. C'est ça. Une chose très importante que nous, on doit comprendre, chers sœurs et frères. Et puis on continue. Ce qui est intéressant, c'est les paroles que le Christ a prononcées, ou disons Dieu, Elohim, Javé, le Créateur, quand il a mis dehors du jardin l'homme et la femme parce qu'ils avaient choisi la voie de choisir par eux-mêmes ce que c'était que le bien et ce que c'était que le mal. Au chapitre 3, verset 22, en revenant au livre de la Genèse, chapitre 3 et verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Pourquoi Dieu dit-il ça, chers amis? Vous êtes-vous jamais posé la question? Est-ce que le diable avait raison? Est-ce que le diable n'a pas menti à Ève quand elle a dit « Vous serez comme Dieu en sachant le bien et le mal ?» Voilà, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu, il les met dehors du jardin pour qu'il ne puisse pas prendre de l'arbre de la vie? Mais écoutez bien cette déclaration du Créateur. Au chapitre 3, verset 22 de la Genèse, l'Éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous ». pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie et de manger, d'en manger, de vivre éternellement. Mais pourquoi Dieu a-t-il dit ça? Vous vous souvenez, d'ici, tout d'abord, il y a quelque chose à comprendre. Le diable, vraiment, il a séduit Ève. Quoique Adam n'a pas été séduit, vous serez comme Dieu en sachant le bien et le mal. Mais comment? En subissant les conséquences du péché. C'était ça la séduction. Mais Dieu, je vous pose la question, comment Dieu connaît-il le bien et le mal s'il n'a jamais péché? Dieu est parfait. Dieu est le caractère parfait. Et le Christ même est venu comme un être humain et il n'a jamais péché. Lisez-le, bien sûr, au chapitre 4 des Hébreux. C'est bien marqué là. Dieu n'a jamais péché. Voyons-le. Donc, comment Dieu connaît-il le bien et le mal? Pourquoi a-t-il dit cela? Nous allons le voir. Au chapitre 4, verset 15 de l'Épître aux Hébreux. Si vous voulez vous reporter là avec moi, chers sœurs et frères, en gardant vos pages là dans le livre de la Genèse, on va y revenir. Au chapitre 4, verset 15 du livre des Hébreux. L'Épître aux Hébreux, il dit, chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Donc, bien sûr, quand il était encore un être composé de l'esprit, comme il était en ce moment, quand il parlait à Adam et Ève, bien sûr, Dieu n'avait jamais péché, Dieu n'a jamais péché, Dieu ne péchera jamais, même pas quand il est devenu un être humain. Alors comment Dieu connaît-il le bien et le mal? Quelle est la différence entre la connaissance du bien et du mal par la méthode de prendre de l'arbre où on décide nous autres quel est le bien et le mal et on subit les conséquences et quelle est la différence avec la façon dont Dieu connaît le bien et le mal sans avoir péché? C'était ça ce que Dieu voulait qu'ils apprennent. C'était à eux de choisir. S'ils avaient pris de l'arbre de la vie, ils auraient connu le bien et le mal sans avoir besoin de l'expérimenter. Alors comment ça se fait? Essayons de comprendre, chers amis. Il y a toujours de nouvelles dimensions à découvrir dans la parole de Dieu. Comment Dieu-t-il connaît-il le bien et le mal sans l'avoir expérimenté? Chers amis, la Bible nous dit que Dieu habite l'éternité. Dieu habite dans une dimension suprême, dans la hauteur, dans une lumière inaccessible. Mais Dieu, il voit n'importe la moindre déviation de sa loi. Dieu peut voir les conséquences sans expérimenter les conséquences. Il veut que vous, les jeunes dans l'Église, et même nous autres qu'on est déjà plus âgés, que nous apprenions à voir les choses du point de vue des dieux et que nous connaissions le bien et le mal sans avoir à expérimenter les conséquences et à briser la loi des dieux. Ça, c'est très important à comprendre parce que Dieu, en habitant l'éternité, et puis nous avons accès par l'Esprit au troisième ciel à la présence des dieux. Nous pouvons voir les choses du point de vue des dieux. Dieu même nous a dit, quand on reçoit le Saint-Esprit, on a l'Esprit du Christ. Regardons ça pour un moment, s'il vous plaît. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Donc, nous commençons à éclairer ce sujet. Au chapitre 2, verset 10, et puis on va voir le verset 16. On va revenir au livre de la Genèse, mais on voit d'abord Premier Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10 et verset 16. Premier Épître aux Corinthiens, s'il vous plaît, reportez-vous là-bas au chapitre 2, chers sœurs et frères. Chapitre 2, verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Voici, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Commençons au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Souvenez-vous, ceux qui l'aiment sont ceux qui obéissent ses commandements. L'amour, c'est obéir ses commandements. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Et ça, c'était l'arbre de la vie. Donc, on pouvait voir le bien et le mal du point de vue des dieux. Dieu voulait que l'homme devienne Dieu comme lui, parce qu'il a été, il serait engendré par l'arbre de la vie qui représente le Saint-Esprit. La semence des dieux. Il voulait que nous, et il veut toujours, que nous apprenions à regarder les choses de son point de vue et non pas avoir besoin d'expérimenter. Je vais vous donner un exemple dans un moment pour que ça soit clair dans vos esprits. Et je le dis aux jeunes, ils voient parfois que les autres, ils s'amusent avec la sexualité avant le mariage et qu'on nous invite partout aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire, sur l'Internet, sur les films, sur la télévision, dans la publicité, partout, à faire une utilisation différente de celle que Dieu nous a ordonnée pour un bonheur, pour un lien d'amitié, d'amour pour l'éternité qui fait la sexualité entre un homme et une femme quand ils s'égardent l'un pour l'autre. Ils apprennent à être fidèles l'un à l'autre quand ils ont appris la maîtrise de soi avant de se marier et ça garantit l'unité et la félicité ou le bonheur d'un couple. Dieu veut notre bien. Mais quand ils apprennent la façon du diable, ils sont en train de signer leur destinée malheureuse s'ils ne se convertissent pas. Ils n'arrivent pas à trouver le vrai amour. On va parler de ça encore un peu. Mais regardons encore au chapitre 2, verset 10 de 1er Épître aux Corinthiens. Chapitre 2, verset 10. Voyons ce qu'il dit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil... Ça, je vous ai déjà dit. Mais disons au verset 16, je crois qu'on l'a déjà lu. Dieu nous a révélé par l'Esprit car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Et au verset 10, chapitre 2, verset 10. Voilà, verset 16. Voilà le verset 16, s'il vous plaît. Je veux que vous regardiez 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il a le discernement du bien et du mal sans l'avoir expérimenté. Je vais vous dire comment. Et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. C'est ça ce que Dieu voulait dès le début. Il a permis que l'homme expérimente les conséquences, qu'il subit les conséquences du péché pour qu'il apprenne la leçon et le Christ est venu nous racheter. Mais il ne veut pas, ce n'est pas sa volonté que nous apprenions de cette façon-là. Et surtout aujourd'hui dans l'Église, avec les jeunes qui ont l'accès à l'arbre de la vie, ils n'ont pas besoin d'aller manger de l'arbre du bien et du mal pour connaître les conséquences du péché. On peut les connaître en mangeant, en prenant l'arbre de la vie qui est à la portée de la jeunesse, parce que la promesse que le Saint-Esprit est pour vous, a dit l'apôtre Pierre, est pour vos enfants. Alors, je vous donne un exemple. Donc, Dieu voulait qu'on ait la pensée de Dieu. Et Dieu a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, en connaissant le bien et le mal. Mais comment Dieu, l'homme, l'a connu? Le diable l'a séduit Ève pour qu'elle connaisse le bien et le mal en expérimentant, en subissant. Et puis Adam, il a décidé, sans être séduit, d'en manger. Et puis ils ont décidé d'expérimenter les conséquences du péché. Dieu voulait qu'ils apprennent à le regarder avec sa pensée, de son point de vue. Il habite l'éternité. Dieu a existé toujours. C'est quelque chose qui nous échappe à l'esprit. Mais il a une éternité qui précède et il a encore une éternité qui est devant lui. Et nous avons la pensée de Dieu si nous sommes en rapport profond et intime avec lui. Dieu, il peut connaître la fin dès le début. Il connaît. La loi des dieux est un chemin, est une voie. Vous le lisez maintes fois dans le chapitre 119 des psaumes. C'est la voie étroite, c'est le chemin. Dieu, dans sa dimension éternelle, sans avoir besoin d'expérimenter, dans sa vision parfaite, quand il voit une déviation, la moindre ou la plus grande de sa loi, il sait exactement quelles seront les conséquences. Nous allons voir, par exemple, ce que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe. Je vous invite à vous reporter au chapitre 41 d'Ésaïe. Et Dieu nous lance un défi avec ses paroles. Dieu, il peut voir le futur sans avoir besoin d'expérimenter ce que l'être humain expérimente pour causer les événements qui viennent comme conséquence de sa conduite. Voyons le chapitre 41, verset 22 du livre d'Ésaïe. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que j'avais, que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions que vous êtes des dieux. Donc Dieu voulait qu'Adam et Ève et nous autres, notre destinée, c'est être Dieu parce qu'on va être engendré, il va être notre Père. Et le Christ est notre frère aîné. Dieu, il voulait qu'on connaisse le bien et le mal comme Dieu le connaît de son point de vue, sans commettre de péché. Il ne voulait pas qu'on subisse les conséquences, chers sœurs et frères. C'est très important. Et puis, je vous répète encore une autre, au chapitre 44. Je vous invite à voir, c'est très important. Ésaïe, voilà, tout est fondé sur l'Écriture. On peut se fonder là-dedans et trouver des merveilles. Chapitre 46, il y en a beaucoup, mais on va lire le chapitre 46 et puis les versets 8, 9 et 10. 46. Oh. Commençons au verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà le pouvoir de Dieu. Il voulait que nous prenions ce point de vue, en prenant de l'arbre de la vie et connaître les conséquences du péché. Vous savez, Dieu a déclaré à Adam, le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Est-ce que cette parole s'est accomplie ou ne s'est pas accomplie? Eh bien, lisons-le. Et puis, il dit, Dieu, il l'a déclaré au chapitre 2 de la Genèse. Au chapitre 2, et puis voyons verset 16 de nouveau. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Alors, Adam et Ève ne sont pas morts le même jour. Il les a mis en dehors, il les a expulsés du jardin. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On va voir comment la parole de Dieu s'est accomplie. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent ces Écritures, mais il est important de voir que chaque parole qui est là s'est accomplie. Dieu, au chapitre 90 des psaumes, je vous invite à vous reporter là-bas, un psaume de Moïse, l'homme des dieux, chapitre 90, il dit, « Prière de Moïse, homme des dieux », chapitre 90, lisez le verset 3. Et vous allez voir comment la parole de Dieu s'est accomplie exactement, littéralement. Chapitre 90, verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. On est de la poussière, nous autres. Même les athées ne peuvent pas le nier. Quand un être humain meurt et on l'ensevelit, il devient de la poussière, chers amis. C'est une loi scientifique et c'est la parole de Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. 1000 ans. Alors, est-ce que Adam est mort le même jour où il a mangé de l'arbre? Adam et Ève sont-ils morts le même jour? Eh bien, nous allons confirmer ces paroles à corps dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre. Vous connaissez ces écritures très bien, mais ça ne fait rien. On les utilise dans une perspective un petit peu différente maintenant. Quoique, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent ces choses-là, mais il faut toujours répéter ces principes pour qu'ils soient bien dans notre esprit, mémorisés, chapitre, ou qu'on les apprenne par cœur. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8. Deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 8. « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Eh bien, Dieu a dit à Adam et Ève, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Et puis, on va voir ici l'âge dans lequel Adam est mort, au chapitre 5 de la Genèse. Regardons-le. Chapitre 5 de la Genèse, chers sœurs et frères. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance des dieux. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé des 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Écoutez bien ça. Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent des 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam, qu'Adam vécut, furent de 930 ans, puis il mourut. 930 ans. Il est mort d'après la perspective des dieux avant d'avoir 1000 ans, donc il est mort d'après la parole des dieux le même jour où il a mangé de l'arbre du bien et du mal. Alors, je vous explique encore une chose, surtout pour vous, les jeunes. Par exemple, vous avez ce film, le Titanic, a eu tellement de succès, on l'a refait encore. Il y a des choses là que je ne vous conseille pas de voir, parce que ceux qui se cachent les yeux pour ne pas voir de mal, de la fornication, de l'adultère et tellement d'autres choses, ce sont eux qui vont entrer dans le lieu de refuge. Et ça, c'est un autre sujet dont je vous ai parlé dans le passé. Donc, il faut se garder, chers amis, de ne pas être part, devenir part de la convoitise du monde. On ne veut pas être part de rien qui soit le péché. Mais une chose intéressante, par exemple, si vous étiez dans un globe ou dans un de ces appareils-là qui peuvent être en hauteur et rester statiques dans l'atmosphère à grande hauteur sur l'Atlantique, disons. Supposons qu'il y avait une lune le soir ou la nuit où le Titanic s'est heurté contre les icebergs. Si vous étiez là-haut, sur à grande hauteur sur l'Atlantique et que vous voyez le Titanic se diriger rapidement de toutes ses forces exactement dans la direction de l'iceberg, malgré tous les annonces qu'ils ont reçues pour les prévenir qu'il y avait des icebergs dans la région, ils n'ont pas écouté. Ça, c'est important de voir comme l'homme n'a pas écouté non plus. Et d'ailleurs, il paraît que la fierté, c'est l'orgueil qui a causé cette grande catastrophe dans l'histoire humaine il y a 100 ans, dans l'année 1912. Si vous êtes là-haut et vous regardez le Titanic s'approcher de l'iceberg, vous n'avez pas besoin d'être dans ce bateau, dans ce paquebot, pour connaître les conséquences de savoir dévier ou d'avoir trouvé la voie erronée, et puis d'aller cogner un iceberg, et puis plonger dans les abîmes de l'Atlantique, être enseveli. Il a trouvé la mort. C'est comme le péché. Le Christ a dit, si vous faites ce que je vous dis ne pas faire, Dieu a dit, vous allez mourir. Eh bien, c'est un exemple. Vous n'avez pas besoin d'expérimenter le péché pour connaître les conséquences quand vous apprenez à voir les choses du point de vue des dieux. Quand vous vous approchez des dieux, c'est comme si vous étiez dans le troisième ciel et que vous avez cette vision parce qu'on a la pensée du Christ et on peut savoir quelles sont les conséquences du péché sans avoir besoin d'être dans le paquebot ou dans le bateau, le Titanic, et cogner l'iceberg et plonger dans les abîmes de l'Atlantique et trouver la mort. C'est exactement ce que Dieu veut que nous sachions. Il ne veut pas que nous expérimentions le péché. Il veut que nous apprenions à nous dénier, à nous nier à nous-mêmes et à nous approcher de lui et avoir la perspective de Dieu. C'est intéressant que c'est une tentation pour nous pavoir de voir la conduite des gens dans le monde. Il paraît que tout va bien pour eux et il semble que rien n'est mauvais. Et puis on se dit, nous autres, mais moi, quelle est ma récompense? Il y a les jeunes parfois qui vont aller à l'école et ils voient les autres qui s'amusent à avoir de rapports sexuels depuis un âge très jeune, déjà parfois 13 ans, et puis ils continuent à le faire, ils ont l'air d'en profiter pas mal. Et puis les autres, ils disent, mais moi, je me nie moi-même, j'essaie de faire les choses d'après la loi de Dieu, et quelle est ma récompense? Écoutez, mes amis, ils ne savent pas les conséquences qu'ils vont subir. Nous connaissons les conséquences. On va voir un petit peu ici au psaume 73, s'il vous plaît. Psaume 73, regardons le point de vue des dieux. Et parfois, le point de vue, notre point de vue, quand on n'est pas proche des dieux, on se laisse confondre par les circonstances extérieures. On n'a pas une perspective qui pénètre au-delà de l'ambiance présente ou de la vue que nous arrivons à voir avec nos yeux physiques. Mais il faut apprendre à voir les choses du point de vue des dieux, avoir la pensée des dieux, songer même les profondeurs des dieux. Comment on les fait? Voyons par exemple une description assez intéressante ici, au psaume 73, psaume d'Asaph, psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Écoutez bien ça, chers sœurs et frères, et surtout vous, jeunes gens de l'Église qui ont le privilège d'avoir l'arbre de la vie à votre portée, et d'avoir le bonheur sans avoir besoin de souffrir, de subir les conséquences. Quoique il y a une souffrance dont on va parler tout à l'heure, si on a le temps, dont on n'échappe pas, mais c'est une préparation pour le bonheur éternel, et même dans cette vie. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. On a une vision très courte, nous autres, chers sœurs et frères. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. C'est ça notre point de vue. C'est ça ce que Adam et Ève, parce qu'ils n'ont pas choisi de suivre ce que Dieu leur avait invité à faire. C'est ça ce qui est arrivé. Ils se sont laissés, d'ailleurs Ève s'est laissée tromper, parce qu'ils n'avaient pas la perspective des dieux. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Oh, où est-ce qu'ils sont les conséquences de leur péché? Le voilà, ils s'amusent, ils brisent les lois des dieux. Il semble que rien ne leur arrive. Continuons. Aussi l'orgueil leur sert d'écolier, la violence et le vêtement qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. C'est-à-dire, ils ne subissent pas les conséquences tout de suite, ça devient de l'orgueil. Ils sont trop sûrs d'eux-mêmes. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. C'est-à-dire, il y a des gens se laisse entraîner par ça. C'est ça, c'est pas bien traduit ici. Ça veut dire, quand on voit quand il dit, quand j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants, c'est dangereux d'aller suivre leur chemin. Continuons ici. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il y a des gens qui se laissent tenter par l'apparence. Ils ne pénètrent pas au-delà des circonstances physiques. Ils ne voient pas la perspective des dieux. Et les conséquences ultimes, ils ne les voient pas. Ils avalent l'eau abondamment. Ils croient que s'ils viennent là-bas, ils vont vraiment avoir l'abondance, du plaisir, et puis qu'ils vont vraiment jouir de la vie. Verset 11, et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? N'est-ce pas, les gens qui sont plongés dans le péché, ils perdent la vision. Ils disent « Dieu ne connaît pas ». Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse, et c'est donc un vain que je purifie mon cœur. Voilà, ça c'est la tentation, c'est le danger. Moi, maintenant, je m'ennuie moi-même, et les autres, ils s'amusent. Et voilà, donc c'est un vain que je purifie mon cœur. Regardons ça, continuons. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je vais suivre le chemin de Dieu, la voie étroite. Je fais cette lutte pour ne pas tomber, mais laisser entraîner par le plaisir immédiat. Dieu ne veut pas que nous n'ayons pas de plaisir. Je vous ai montré, il avait tous ces arbres là qui étaient merveilleux. Dieu veut vous donner tout le plaisir du monde, mais il veut que vous attendiez pour que ce soit durable et pas un plaisir passager, très, qui passe soudainement. Il dit, c'est donc un vain que je purifiais mon cœur et que je lavais mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Donc, tous les matins, mon châtiment est là. Vous savez que Joseph, le jeune fils de Jacob, le frère de Ruben, Joseph, il était celui qui honorait son père. C'est lui qui avait obéi les lois de Dieu. Quand il a eu l'occasion d'avoir ce plaisir temporaire avec la femme du patron, il a fui du péché. Il a dit, je ne peux pas commettre ces grands péchés. Il s'est nié lui-même. Et il paraît qu'il aurait été châtié parce qu'il a été mis en prison, peut-être pendant 10 ans. Souvenez-vous que le numéro 10 est un numéro d'épreuve. Il n'avait rien fait pour avoir ce châtiment injuste. Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Ce n'est pas une conséquence du péché. Ce que Dieu voulait, c'est préparer son esprit, lui enseigner l'humilité, lui enseigner la persévérance, lui enseigner à dépendre de Dieu, à avoir foi en Dieu, jour après jour, au long des années, jusqu'à ce que, quand il avait 30 ans, souvenez-vous qu'il a été vendu quand il avait 17 ans. C'est peut-être à l'âge de 20 ans, peut-être, quand il a été mis en prison parce qu'il a choisi d'obéir Dieu. Donc il dit, chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. On pourrait dire ça, mais il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais perdu de vue les rêves, les songes que Dieu lui avait donnés de son futur. Et Dieu nous donne beaucoup de visions de notre futur, chers amis, pour que nous sachions qu'on ne se nie pas nous-mêmes en vain. Et qu'on ne lave pas les lames dans l'innocence en vain. Je vous ai dit, c'est, je veux parler comme eux. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dieu a préparé son caractère. Quand il avait 30 ans, il avait appris des leçons profondes. Il avait appris la persévérance. Sa foi s'était développée. Sa sagesse s'était accrue. Il a appris à avoir confiance en Dieu. Et puis, il a vécu jusqu'à l'âge des 110 ans. Comparé, chers amis, 10 ans en prison et 110 ans de prospérité, de gloire, de pouvoir, de dignité. Et Dieu est en train de nous préparer pour une éternité. C'est pourquoi il permet parfois qu'on souffre, comme Joseph a souffert. David, c'était la même chose. Quand il a été persécuté, peut-être pendant 10 ans aussi, le numéro 10, c'est le numéro de jugement. Dieu nous juge pour voir quelle est notre conduite. C'est pourquoi il y a 10 commandements dans la loi de Dieu. Et David, il a été persécuté, n'avait rien fait pour mériter cette persécution. Donc, ne vous découragez pas, s'il vous plaît. Nous avons ces deux exemples magnifiques. Dieu lui a donné à Joseph une vie de 110 ans. Il a été 10 ans en prison, il lui a donné 100 ans. Dieu, c'est une comparaison pour nous de comprendre si nous nous nions maintenant les plaisirs temporaires comme Moïse. Il a préféré l'humiliation du Christ parce qu'il avait ses yeux dans la récompense. Il voyait plus loin et pas les plaisirs temporaires de l'Égypte. C'est la même chose. Dieu veut que nous apprenions à voir les choses de son point de vue. Et que nous soyons prêts à nous nier nous-mêmes, même s'il y a la souffrance, une souffrance de préparation du caractère pour une joie éternelle. Et les exemples sont David, l'un des même Job, des exemples magnifiques. Arrêtons-nous là et voyons par exemple ce que David a dit dans les psaumes 18. Regardez ça, s'il vous plaît, pour que ça vous éclaircisse que même si on souffre un peu pour un certain temps, sans avoir péché comme Joseph, c'est la préparation du caractère. Dieu a inventé la souffrance comme un moyen de perfectionner, de parfaire le caractère. Même son fils, quand il est devenu un homme, le Christ, il a été perfectionné parce qu'il a souffert, même s'il n'avait pas péché. Il a appris comment faut-il vaincre dans la chair. Il a appris à vaincre. Il a souffert, il a été perfectionné. Donc Dieu, il permet ça. Qu'est-ce qu'il a fait avec David? Il avait aussi peut-être 20 ans. À 17 ans, il a tué le géant. Et peu après, il y a la persécution à mort. Il n'avait rien fait pour la mériter. Et Joseph, il avait été fidèle à Dieu. Il était fidèle à son père. C'était le seul des enfants vraiment qui honorait son père. Il y a une promesse pour le cinquième commandement, pour que tes jours soient prolongés et que ta vie, que les choses aillent bien pour toi dans ta vie sur la terre. C'est une promesse et Dieu l'accomplit. Mais il faut obéir, chers amis. Voici par exemple David au chapitre 18 du livre des psaumes. Il dit au début du psaume, dit au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Donc, il avait 30 ans, d'après ça, on peut supposer, quand il a composé ce psaume. Qu'est-ce que David dit? Il a été persécuté, il a même dit à son ami Jonathan, écoute, si j'ai fait quelque chose de mauvais, tu peux me tuer maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ton père me poursuive à mort? Donc, il ne savait pas que Dieu était en train de préparer son caractère. Il fallait qu'il développe cette dépendance des dieux, jour et nuit, quand sa vie était constamment en danger. Donc, il a appris à dépendre des dieux, pas de ses propres forces. Il a pris l'humilité, il a pris la persévérance, sa foi s'est développée, sa sagesse s'est accrue, la même préparation de Joseph. Et vous, jeunes, quand vous décidez de suivre Dieu, il va vous préparer pour que votre vie se prolonge même sur cette terre, si vous obéissez les commandements d'honorer vos parents d'une façon merveilleuse avec la paix, même s'il y a parfois des épreuves. Mais c'est simplement pour perfectionner, pour parfaire le caractère. Par exemple, voyons, donc c'est quand il a été délivré de la persécution, on peut calculer à peu près 10 ans de persécution, comme on peut calculer à peu près, je ne suis pas dogmatique, 10 ans de prison pour Joseph. Donc il aurait pu dire, mais moi, peut-être que j'avais commis le péché avec la femme du patron, je ne serais pas dans la prison. Ou David, s'il avait fait on ne sait pas quoi, il ne serait pas persécuté à mort. Mais regardez au verset 20, chapitre 18 des psaumes, verset 20, la déclaration de David. C'est très important de comprendre ces concepts, chers sœurs et frères. Et comme je vous dis, je m'adresse surtout à la jeunesse. Il a dit au verset 20, « Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. » Voilà. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Il n'avait rien fait pour mériter ça, mais Dieu l'a protégé parce que il avait la pureté de ses mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Quelqu'un dirait, mais comment ça peut m'arriver? Je suis en train d'obéir Dieu. Comme le psalmiste ici, il dit, moi je suis châtié tous les matins. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est très important de comprendre ces concepts bibliques. Ils sont là pour nous, pour que nous comprenions. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, verset 22, car j'ai observé les lois de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu, comme Joseph. Il n'était pas coupable, mais il a été mis en prison. Et David n'était pas coupable, il était persécuté à mort. Toutes ces ordonnances ont été devant moi, verset 23. Je ne me suis point écarté de ces lois. Il a continué dans le chemin. J'ai été sans reproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Il a appris à se nier lui-même pour suivre la voie étroite de l'obéissance à Dieu. Au lieu de suivre la voie où on se permet de se donner des plaisirs contre la loi de Dieu, on se sort de la voie étroite, on s'en sort de la voie étroite. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, verset 25, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Voilà, mes amis, on continue donc au psaume 63 pour que vous appreniez, il faut comprendre ces dimensions de la connaissance spirituelle. Dieu, il nous promet l'arbre de la vie, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de souffrance. Il faut souffrir pour que notre caractère soit parfait, pour qu'on puisse jouir d'une éternité, et même dans cette vie, d'une longue vie, de bien-être. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et le caractère, vous savez, il y a beaucoup de vedettes qui arrivent à la renommée, puis ils sont connus, ils sont comme des idoles du monde. Leur caractère n'est pas prêt pour cette gloire. Ils sont détruits. Ils se détruisent eux-mêmes par les drogues et par des maladies, par toutes sortes de problèmes. Dieu veut que nous soyons heureux pour l'éternité. C'est pourquoi il nous apprend ces choses-là. On va de nouveau au chapitre 73 des Psaumes. Ici, verset 13. « C'est donc en vain que je purifiais mon cœur. » Donc, souvenez-vous de Joseph. Souvenez-vous de David. « Et que je lavais mes mains dans l'innocence. » Souvenez-vous de ces exemples. Qu'est-ce qu'ils ont reçu après? Le royaume. Donc, on va voir après. Le péché de David a eu des conséquences. On va voir ça. Donc, il faut avoir la différence entre l'un et l'autre. Chaque jour, je suis frappé. Dieu le dit, mes amis. Regardez, s'il vous plaît, au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Voyons. Chapitre 12, il dit au verset 5 et verset suivant. Voyons, pour que ces concepts soient clairs en vos esprits, chers sœurs et frères. Chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Voyons répéter les paroles de celui qui a écrit les psaumes de Asaph, inspiré par Dieu, qui a écrit les psaumes 73. Je répète. Reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 12 des Hébreux et au verset 5. Chapitre 12 et verset 5, il dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Parfois, c'est à cause des conséquences du péché. Il veut que nous ne le répétions pas, comme on va le voir tout de suite après. Donc, ça répond à la question du 73, du psaume 73. J'ai donc été purifié en cœur, donc en vain. J'ai purifié mon cœur et je lavais mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Voilà, ça c'est la question qu'on peut se poser quand on se compare, nous autres, avec les voies du monde et les plaisirs qu'ils ont en dehors de la loi de Dieu. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'amènent. Voilà, on continue donc au chapitre 12 des Hébreux. Car le Seigneur, verset 6, châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas, Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, et que nous ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Voilà, c'est l'éternité, comme je vous avais dit, une longue vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme s'il le trouvait bon, comme il le trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions de sa sainteté, pour nous parfaire, pour nous perfectionner, comme je viens de vous le dire. Vous voyez, c'est tout bien appuyé sur l'Écriture. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non pas de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Voilà, la finalité est toujours bonne. On continue au psaume 73, verset 15. Psaume 73, verset 15. Si vous disiez, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Donc, il y a la conscience qui lui dit, non, il doit y avoir quelque chose d'autre. Je ne peux pas parler comme ça. Je ne peux pas dire que j'ai purifié mon cœur en vain. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Quand on a la perspective humaine et qu'on ne monte pas à la dimension des dieux à laquelle il veut nous conduire par l'arbre de la vie, par son esprit, pour avoir la pensée des dieux, pour pénétrer les profondeurs des dieux, c'est très difficile pour nous. Donc, il faut s'approcher des dieux. Et voyons ce qu'il arrive. Verset 17, « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires des dieux. » Donc, il est entré dans la présence des dieux où on a accès par l'arbre de la vie, par l'esprit des dieux. On peut monter là-haut parce qu'on était engendré par ce Père qui veut nous faire ses enfants. C'est absolument merveilleux. « Jusqu'à ce que je pénétrai dans les sanctuaires des dieux et que j'ai pris garde au sort final des méchants, comme si vous étiez dans une globe, je ne sais pas si on dit globe, vous comprenez ce que je veux dire, ou dirigible, on dit en espagnol, ces appareils-là sur l'Atlantique qui peuvent être suspendus dans l'atmosphère à grande altitude, et vous voyez le Titanic qui va droit vers l'iceberg, n'est-ce pas ? Donc vous voyez les conséquences. Quand on monte à la présence des dieux, on voit les conséquences du péché parce qu'on rentre dans cette dimension de l'éternité où Dieu voit parfaitement une vision 20-20. N'importe quelle déviation de sa loi, comme je vous l'ai montré dans le livre d'Ésaïe, il connaît la fin dès le commencement. Il voit les conséquences comme si vous étiez suspendu dans l'atmosphère et vous voyez le Titanic se heurter contre l'iceberg, chers sœurs et frères. Vous n'avez pas besoin d'être là-dedans pour subir les conséquences de savoir dévier ou de ne pas avoir écouté toutes les annonces de danger qu'on lui avait données, chers sœurs et frères. Donc Dieu ne veut pas que nous expérimentions les conséquences du péché. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas échapper une certaine dose de souffrance comme David et comme Josué pour préparation du caractère pour pouvoir jouir d'une longue vie et de l'éternité, chers sœurs et frères. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Verset 18, il est monté à la présence des dieux. On a accès à la présence des dieux. On peut voir le futur comme Jean. Il a été appelé, il a vu une porte ouverte. Il est monté jusqu'au trône des dieux. Mais l'apôtre Paul a été là-haut. Et nous, dans l'esprit, on a accès à cette dimension. Ça dépend de nous, donc, d'utiliser l'arbre de la vie pour voir les choses du point de vue de Dieu et connaître le bien et le mal, pas par expérimentation, pas en brisant les lois de Dieu, mais en ayant la perspective de Dieu. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber dans les mets et tu les mets en ruine. Voilà la fin. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, on sait que le système de ce monde va être complètement détruit. Quand vous lisez la vision de Daniel au chapitre 2 de la statue de l'empire de l'homme en brisant, en décidant le bien et le mal par eux-mêmes, va être complètement détruit. Les sept plaies des trompettes et les sept dernières plaies, chers amis, vont complètement détruire ce monde et ce système. Et c'est le système des dieux fondé sur l'arbre de la vie qui va être fondé à l'échelle mondiale et universelle. L'autre est temporaire. Il passe. Tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Verset 19, je suis encore au chapitre 73. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. C'est la fin. Dieu a dit à Adam, tu vas mourir le même jour, tu mangeras. Peut-être, il ne croyait pas au début, mais à l'âge de à l'âge de 930 ans. Il a compris, peut-être. Ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grisé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Voilà ce qu'on est. On manque de vision. Et parfois, on se laisse tenter par la conduite des méchants. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Enfin, vous pouvez lire là. La fin, ceux qui s'écartent de toi vont périr. Et si nous nous écartons de la voie que Dieu nous a enseignée, on va périr, on va avoir des conséquences encore plus grandes que le reste du monde, mes chers sœurs et frères. Donc, on continue ici. On va voir donc des conséquences du péché. On a déjà étudié la façon de connaître le bien et le mal sans avoir besoin d'expérimenter ou de briser la loi de Dieu. Reportez-vous au livre de la Genèse, s'il vous plaît, chers sœurs et frères. Reportez-vous au livre de la Genèse, et puis nous allons voir, par exemple, nous avons pris des exemples, tout ce qui leur est arrivé, c'est pour notre enseignement. Regardez ce qui est arrivé, vous vous souvenez bien que Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Au chapitre 25 de la Genèse, il dit, et Jacob dit, jure-moi d'abord, parce qu'il lui a offert les gentils, par exemple, on lit ici, au chapitre 25, verset 29, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on donne à Ésaü les noms d'Édom. Ça veut dire roux ou rouge. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je veux m'en mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Vous voyez, c'est le plaisir immédiat. Il n'a pas appris à se nier lui-même, comme on vient d'étudier. Quand on suit la voie étroite, on se nie soi-même temporairement pour avoir une récompense durable dans cette vie et pour l'éternité. Ceux qui ne sont pas capables de se contrôler eux-mêmes et qui laissent leur instinct primaire conduire, c'est-à-dire décider leur conduite, ils payent des conséquences à long terme, chers amis. C'est le contraste que Dieu veut que nous apprenions. Voici, je veux mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le d'abord. Et il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors, qu'est-ce qui arrive? Son père, Isaac, voulait le bénir, peut-être restaurer son droit d'aînesse. Donc on voit au verset 27 que Jacob, en suivant les conseils de sa mère, mais il était responsable aussi, il a décidé de tromper son père et de mentir à son père. Et puis, comme son père avait dit à Ésaü, va à la chasse, apporte-moi du gibier pour que je te bénisse. On sait bien au chapitre 27, verset 6, verset 9 de la Genèse que la mère, Rebecca dit à Jacob, va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. Souvenez-vous de ces mots-là. Deux bons chevreaux et j'en ferai pour ton père un mets comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Vous voyez qu'elle a mis, n'est-ce pas, la peau de chevreaux pour montrer qu'il était poilu comme son frère. Donc c'était la tromperie, c'était une séduction. Verset 16, elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil, le cou de Jacob. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Alors, il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. » Alors voilà le mensonge, chers amis. Vous savez que Dieu est le mensonge. Cependant, Dieu a quand même permis qu'il soit béni, parce que, n'est-ce pas, Dieu n'allait pas donner le droit d'aînesse à Ésaü, mais il a pris les choses en ses propres mains. C'est une leçon pour nous, chers amis. Verset 20, Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu as déjà trouvé mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Encore un autre mensonge. Il parle de gibier quand il était en train de lui présenter de chevreaux. Donc, après, quand Ésaü arrive, vous le voyez au chapitre 27, verset 35, Ésaü dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Alors voilà qu'il pleure, n'est-ce pas? Mais malgré ses pleurs, comme l'apôtre Paul nous prévient dans le chapitre 12 des Hébreux, nous, on doit faire attention à ce qu'on ne vende pas notre droit de neige pour un plat de lentilles, des lentilles, pour un plaisir temporaire, vendre une éternité, chers amis. C'est une grande avertissement là pour nous. Dieu nous avertit par ses exemples. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Jacob? Il a dû fuir parce que son frère avait conçu le plan de le tuer après la mort d'Isaac, leur père. Donc, il a été envoyé à la terre d'origine de ses parents, d'Abraham, d'Isaac et de Rebecca. Et puis, voilà, il arrive, vous voyez, il venait de tromper son père, et puis il arrive, et puis il tombe amoureux de Rachel quand il la voit la première fois. Il la voit, il tombe amoureux d'elle, et puis il dit à son père, quand il a été conduit chez son père, qu'il se rend compte que c'est son oncle et que Rachel est sa cousine. Donc il dit, ensuite, Jacob dit à Laban, au verset 29-21, « Donne-moi ma femme. » Il a travaillé donc 7 ans pour Rachel. Et au chapitre, je suis en train de sauter un petit peu ici dans l'histoire que vous connaissez déjà, mais on va voir les conséquences. On a déjà vu qu'il y a une certaine souffrance qu'on ne peut pas éviter, puis il y a une autre souffrance que Dieu permet comme conséquence de notre conduite. Voyons par exemple le chapitre 29 et verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. » Il avait travaillé 7 ans. Il lui semblait que ça avait été comme un mois. Il était tellement amoureux. « Et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu. Il fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Ah voilà, vous voyez, Dieu est en train de lui apprendre une leçon. Tu ne voulais pas qu'il continue avec l'habitude de mentir ou d'être rusé pour avoir son avantage. Ici, on voit les conséquences donc du péché que Dieu, par amour, permet que nous souffrions, que nous subissions, chers amis. Voilà une leçon que Dieu met devant nous. Donc, ici, c'est la conséquence de ce qu'il avait fait. Donc, j'espère que ces concepts sont clairs en votre esprit. Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Vous voyez, Jacob a trompé son père. Maintenant, c'est son beau-père qui le trompe. Et puis, il paraît que le soir, quand la jeune épouse entrait dans la chambre nuptiale, elle avait un voile. Parfois, c'était une tradition d'un certain pays du Moyen-Orient, donc c'était le soir, il avait peut-être bu un peu trop parce que c'était un grand banquet, une célébration de 7 jours, et puis la voilà qui vient le premier jour, la nuit, et il ne se rend pas compte, il croit que c'est Rachel, il est trompé. C'est exactement ce qu'il a fait à son père. Dieu est en train de lui apprendre une leçon, et nous devons apprendre de ces leçons-là, parce que, après tout, je crois que nous tous, nous avons déjà subi des conséquences des erreurs que nous avons faites dans le passé. Donc voilà, n'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Donc, verset 27, achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Donc, il a dû avoir la lune de miel de 7 jours avec Léa et au bout de 7 jours, il lui a donné Rachel, mais avec la condition qu'il travaille encore 7 ans. Voilà. Donc, il est en train de payer les conséquences de ce qu'il a fait. Dieu ne veut pas que nous agissions de la sorte. Il veut que nous apprenions. Et voilà des leçons. Donc, il y a eu des conséquences. N'est-ce pas? Alors, après, vous savez qu'il lui a fixé un salaire. Il lui a fixé un salaire. Et puis, pendant 20 ans, il a été là, il a travaillé dur. Voyons par exemple le chapitre 30, vous voyez comment il continue à le tromper. Donc je crois qu'il a appris des leçons profondes. Continuons par exemple ici, au chapitre 30, au verset 31. Nous allons voir comment Laban lui changeait le salaire, donc le trompait 10 fois. Encore le numéro de jugement, comme Joseph a été 10 ans en prison, et David peut-être pendant 10 ans persécuté à mort. Ici, nous allons voir. Ici, au chapitre 30 et verset 31, « Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. » Et puis quand Laban voyait qu'il se multipliait, donc il changeait. Donc, on va voir au chapitre 31, verset 6. De la même façon que les autres ont été éprouvés pour développer le caractère des dieux, mais Jacob a subi les conséquences aussi pour développer le caractère des dieux. Dieu permet des conséquences pour que nous apprenions. Dieu est amour. Même si on se repentit, si on se répand, excusez-moi, Dieu permet des conséquences. Nous allons les voir encore un peu plus loin. Restez avec moi, chapitre 31, verset 6 de la Genèse. Vous savez vous-même, il dit à ses deux épouses, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient de petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient de petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Donc Dieu quand même l'a béni, mais il a permis qu'il subisse les conséquences de cette tendance, de son caractère. Jacob veut dire celui qui supplante, celui qui est rusé pour avoir son avantage personnel. Donc voilà, il y a encore un exemple que je veux que vous lisiez, chers amis. C'est Joseph quand il a été envoyé par son père pour voir la conduite de ses frères, de ses 10 frères. Ils voulaient le tuer d'abord parce qu'ils le haïssaient. À cause de ses rêves et parce qu'il portait cette tunique en couleur qui est la tunique qu'on donnait au premier-né. Donc Jacob, il traitait déjà Joseph comme l'aîné. Il était l'aîné de sa femme Rachel, mais l'aîné était Ruben. Donc on continue et puis on voit ici ce qu'ils ont fait. On va voir au chapitre 37, on voit que Ruben a essayé de sauver la vie de Joseph quand ses frères voulaient le tuer. 37, 29 de la Genèse. Ruben revint à la citerne, voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et il dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez bien qu'ils l'ont vendu. Alors, verset 31, écoutez bien ça, chers amis. Voilà comment Dieu nous apprend des leçons, parce qu'il nous aime. Parce qu'il ne veut pas que nous continuions dans certaines tendances de notre caractère qui sont dévoyées. Il veut que nous marchions dans l'intégrité. Et voilà ce qui est arrivé au chapitre 37 et verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph et y ont tué un bouc. D'ailleurs, dans d'autres traductions, il dit un chevreau. C'est exactement ce que sa mère avait utilisé pour tromper son père. C'est un petit chevreau. Ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Ils étaient en train de tromper leur père avec cette tunique. C'est malheureux, chers amis, mais il avait fait la même chose avec son père lui-même. Ce sont des leçons que Dieu met là pour que nous apprenions la crainte des dieux. Il va nous enseigner le chemin. Alors Jacob n'a pas perdu sa récompense. Il sera dans les royaumes des dieux. Combien de fois le Christ a dit que dans les royaumes des dieux, on sera avec Abraham, Isaac et Jacob, ou Israël. Mais il a appris des leçons comme conséquence des péchés. Donc Dieu utilise les deux façons. L'une comme préparation, comme David et comme Joseph, quand ils n'avaient rien fait pour mériter cette persécution ou être en prison, et aussi en nous permettant de subir les conséquences de nos erreurs et de nos péchés. Jacob reconnut, verset 33, moi ça m'a fait pleurer parfois. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. Et il pleurait son fils. Voilà encore, chers amis, une conséquence. Vous savez que Dieu a permis qu'il le voie encore. Je vais vous lire ça. Donc Dieu, miséricordieux, ils se sont retrouvés quand ils sont allés en Égypte, quand Joseph était déjà le premier ministre de la première puissance du monde. Au chapitre 46 et verset 28, Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Gozan ou à Gozen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Gozen ou Gozan, je ne sais pas comment vous le prononcez, à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Donc, Dieu a consolé sa souffrance. Donc, on va voir un autre exemple ici. C'est l'exemple de Ruben, chers sœurs et frères, que vous connaissez bien. Donc, vous voyez, Ruben, peut-être, il avait cette tendance, il n'arrivait pas à se contrôler sa sensualité, comme c'est arrivé avec Ésaü, il ne contrôlait pas ses instincts. Quand on n'a pas le caractère qu'il faut avoir, on perd le droit d'aînesse. Ça, c'est un avertissement pour nous tous. Nous avons tous été appelés pour être des premiers-nés. Dieu nous a donné le droit d'aînesse en nous donnant le Saint-Esprit. Mais si nous n'apprenons pas à obéir les lois de Dieu, à avoir la maîtrise de soi, à produire les fruits de l'esprit au lieu des fruits de la chair, nous allons perdre notre droit d'aînesse comme Ésaü, qui n'a pas pu contrôler ses instincts primaires, et comme Ruben aussi. Voilà ce qui est arrivé au chapitre 35 de la Genèse. Chapitre 35 de la Genèse, on parle au verset, ici, à la fin du verset 15, de la mort de Rachel. Et souvenez-vous que Bilha était la servante de Rachel. Et peut-être Ruben avait déjà mis ses yeux sur la servante qui était devenue une des épouses ou la concubine de son père. Ce qui est intéressant ici, mes chers amis, parfois il y a des traits du caractère qui restent presque de façon génétique. Vous savez, Émile Zola, au XIXe siècle, un homme de grands talents, il a écrit un roman qui, vous connaissez peut-être, que Roger Vadim en fait un film. Il l'a présenté, disons, actualisé comme au XXe siècle. Ça s'appelle « La curée ». Et c'est une histoire semblable. C'est un fils qui le père a une deuxième épouse qui est très belle et très jeune, mais il a un enfant qui est déjà un adolescent, et vous connaissez l'histoire, il commet le même péché de Ruben. C'est intéressant que c'est Émile Zola qui a écrit ce roman, La curée. Et voici, regardons, une fois que Rachel est morte, tout de suite après, au verset 21 du chapitre 35 de la Genèse, dit « Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père. » La même histoire de la curée, comme je vous le dis, d'Émile Zola. « Et Israël l'apprit. Le fils de Jacob était au nombre de 12. » Vous savez, chers amis, le péché ne reste pas secret. Ça, c'est encore un avertissement que nous devons apprendre. M'excusez si je me prolonge un peu trop. Vous pouvez diviser ce message, si vous voulez, en deux parties. Mais il faut que je continue maintenant. C'est à vous de choisir, chers amis. Mais je continue de l'avant. Parce que Dieu me permet de faire ce message. C'est très important pour vous, pour moi aussi. Je n'ai pas encore fini ma course. Donc, regardez ce que l'apôtre Paul nous avertit dans la première épître à Timothée, au chapitre 5, verset 24. Chapitre 5, verset 24. Vous souvenez-vous, Ruben a commis un péché d'inceste et son père, il l'a appris, il l'a su. Pourquoi? C'est écrit ici. Chapitre 5 et verset 24 de la première épître à Timothée. Je vous répète, première épître à Timothée, chapitre 5, verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Il y a des choses qui sont évidentes. Même Dieu, parfois, il dit dans le livre d'Ésaïe qu'il y a des homosexuels dont on le voit dans leur visage. Ils reflètent leur conduite. Ils déclarent contre eux. Vous pouvez regarder ça. Je ne dis pas tous, mais il y en a. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles-ci, qui ne le sont pas, ne peuvent pas rester cachées. Comme le bien qu'on fait en secret, Dieu récompense en public ceux qui le font en secret. Ici aussi, le péché ne peut pas, la traduction ici n'est pas très exacte de chez M. Segond, mais ce qu'il veut dire, que le péché, comme les bonnes œuvres, ne peuvent pas, ne peuvent rester cachés. Il y a un proverbe chinois qui dit, si tu ne veux pas que personne le sache, ne le fais pas. Parce que c'est un péché, surtout de ce genre-là, il sera découvert, tôt ou tard. Ça doit nous apprendre aussi la crainte des dieux, une crainte saine, chers amis. Donc, quelle a été la conséquence? À cause de ce péché, comme Ésaü, un manque de maîtrise de soi, ici encore, un manque de maîtrise de soi, il a laissé ses instincts dicter sa conduite, comme Ésaü l'a fait, et puis qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu son droit d'aînesse. Regardons au chapitre 49 de la Genèse, chers sœurs et frères. Chapitre 49, ça ne veut pas dire, ça. Nous, on a même, bien sûr, tous ceux que Dieu appelle de la France, qu'on connaît bien, c'est la tribu de Ruben, et peut-être quelques autres régions, je ne connais pas exactement les frontières exactes de la tribu, mais maintenant, il y en a beaucoup qui sont appelés à avoir les droits d'aînesse pour récupérer ce qui était perdu, d'une certaine façon, du point de vue physique, on peut le retrouver dans la dimension spirituelle, et même dans la possession du monde. Au chapitre 49 de la Genèse, Jacob appela ses fils et dit, « Ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps, au dernier temps, comme on pourrait le traduire aussi. Ensemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. » Oh là là, qu'ils avaient le pouvoir de prophétie, ces patriarches. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Voilà, donc il a perdu la prééminence à cause d'un péché. Il n'a pas duré longtemps, mais les conséquences ont duré tout au long de l'histoire, jusqu'au dernier jour, chers amis. J'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup la culture française. Bien sûr, comme il dit, elle est toujours supérieure en dignité. Même la langue française, on l'a parlé dans tous les cours de l'Europe, c'était la lingua franca du monde, la langue diplomatique, c'était vraiment la dignité de Ruben, chers amis. Même en Russie, chez les tsars, on parlait français. On a la cour de Saint-Pétersbourg, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ils ont des idées magnifiques, une intelligence vraiment qui se détache, qui n'est-ce pas, qui est remarquable chez le peuple français, des inventions, des œuvres d'ingénieurs. C'est Lesseps qui a fait le canal des Suez, n'est-ce pas? C'était vraiment un succès du génie ou d'un ingénieur. Et puis c'est la France qui l'a faite, mais comme vous le savez, elle est finalement est tombée dans les mains des Anglais, qui sont la tribu de Joseph. C'est les Français qui ont commencé le canal de Panama, mais c'est les Américains qui l'ont fini. C'est le français qui était la langue diplomatique, mais après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'anglais qui pratiquement a remplacé le français comme langue internationale. Mais il y a toujours cette puissance, cette distinction, cette élégance, ce sens de la qualité, ce sens du dessin, ce raffinement d'esprit, disons, quand il s'agit de dessin ou de modes, de choses comme ça qui sont supérieures. On ne peut pas le nier. Les Anglais, les Américains, ils admirent la France. Et j'ai connu une jeune fille allemande une fois qu'on a pris un vol ensemble de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Argentine, jusqu'aux États-Unis. Elle m'a dit, les Allemands disent, quand quelque chose vraiment est formidable, ils disent, on est comme Dieu en France. C'est un pays très béni. La terre qui a reçu, la qualité des vins, la qualité des fromages, n'est-ce pas? C'est merveilleux, les bénédictions sont là. Mais cette double portion du droit d'aînesse est perdue. Vous savez, par exemple, la Louisiane, ce qui a été vendu par Napoléon dans l'année 1803, il a été vendu à Jefferson, Thomas Jefferson, président des États-Unis, en 1803, pour 15 millions de dollars. Et la superficie de la Louisiane est 2 140 000 km². 2 144 000 km². C'était la propriété de la France. Et puis, la superficie de la France, c'est 551 500 km². Et avec le département d'outre-mer, c'est 675 417 km². Donc, voilà quatre fois la superficie de la France. La Louisiane a été vendue pour, disons, presque rien. Ils ont perdu tout ce territoire qui faisait partie du droit d'aînesse. Ça n'enlève pas des bénédictions énormes que tout le monde rêve de la France et de merveilles et puis de Paris supérieur en dignité. Il n'y a pas une ville au monde comme Paris, en beauté, en distinction, en dessin, en élégance. Il n'y a pas une seule ville au monde. Vraiment, il paraît que Prague s'approche, mais Paris continue d'être ce qu'on appelle la ville lumière. Et puis, vous savez, les intellectuels français respectés partout dans le monde. Mais voilà ce qui est arrivé à cause d'un péché, d'un manque de maîtrise de soi, d'avoir brisé la loi de Dieu. Il n'a pas perdu de bénédiction, mais il a perdu le droit d'aînesse. Regardons le livre des Chroniques, premier livre des Chroniques, chapitre 5, chers sœurs et frères. Premier livre des Chroniques, chapitre 5, et vous voyez ce qui est arrivé à Ruben comme conséquence de son péché. Chapitre Premier livre des Chroniques, chapitre 5, verset 1. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Voilà, ça a été transféré. Nous ne voulons pas perdre notre droit d'aînesse non plus, chères sœurs et frères. Joseph a démontré tout le contraire. Pas ses enfants maintenant. Ils sont en train de pourrir le monde avec leur conduite. Mais leur ancêtre, Joseph, il a respecté la loi de Dieu. Il a montré la crainte des dieux et la maîtrise de soi parce qu'il craignait Dieu. Il était en contact avec son Dieu. pas besoin de répéter cette histoire. Mais maintenant, je veux que vous vous rendiez maintenant au deuxième livre de Samuel, au deuxième livre de Samuel, chapitre 13, chères sœurs et frères. Voilà, chapitre 11. Chapitre 11 du deuxième livre de Samuel. On continue, chers sœurs et frères. L'année suivante, au temps, chapitre 11, verset 1, au temps où roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? Bathsheba, fille d'Éliam, femme de Uri, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. On lui a dit que c'était la femme de quelqu'un d'autre. Et la Bible dit, elle était coupable aussi, parce que la Bible dit, quand une femme en ville, elle peut crier, elle peut hurler, si vous voulez, et puis elle sera innocente, mais elle n'a rien fait de ce genre de conduite. Donc, elle vint vers lui. Et il coucha avec elle, après s'être purifié de sa souillure, et retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Héthien. » Vous savez comme il a essayé que Uri, David voulait cacher son péché. Comme je vous l'ai dit, l'apôtre Paul nous dit, dans la première épître au Timothée, chapitre 5, à la fin, le dernier vers, que le péché ne peut pas rester caché. Donc, il voulait cacher son péché. Encore une raison pour craindre Dieu, chers amis. Donc, quand il n'a pas pu forcer et Uri d'aller coucher avec sa femme, parce que c'était un homme qui avait une intégrité vraiment admirable, il dit, les soldats sont là en bataille et l'arche des dieux. Ils avaient amené l'arche, bien sûr. Il ne voulait pas aller coucher avec sa femme quand le reste était, s'est privé de leurs épouses pour être en bataille. Donc, c'était un homme loyal à Dieu et à David. Et vous savez comment David a donné l'ordre de les mettre tout près de la muraille et qu'il meure, qu'on les tue. Il a tout, vraiment. C'était préconçu. C'était un plan préconçu qu'il a envoyé. Et puis, quand on lui a dit qu'il était mort, le messager parti à son arrivée, il fit rapport, je suis en train de lire chapitre 11, verset 22, rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage, ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. Mais il avait commandé à Joab de le mettre tout proche de la muraille pour qu'il meure. David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville, et renverse-la et encourage-le. » Voilà. Donc, c'était endurci, chers amis, ce qui nous arrive quand on pêche, on ne veut pas le confesser. Le psaume 32 a été composé à cause de cette histoire. David ne voulait pas confesser et reconnaître qu'il avait transgressé, qu'il avait brisé les lois des dieux. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait déplut l'Éternel. Voilà, il ne fait pas Dieu. Il ne fait pas l'acception des personnes, chers amis, encore la crainte des dieux. Parce qu'elle a été aimée des dieux, ça ne veut pas dire que Dieu, en l'aimant, n'allait pas le faire subir les conséquences de son péché. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui. Nathan était un prophète qui vivait à l'époque du roi David. Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. et qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait dans son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Il dit, il mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Quand vous lisez le livre de l'Exode au chapitre 21, chapitre 22, David connaissait la loi de Dieu. Il s'est dicté la sentence lui-même. Voyons au chapitre 22 de l'Exode. « Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. » Voilà. Donc, la parabole du prophète était assez vraiment remarquable. Et David s'est dicté la sentence lui-même. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action. C'était écrit dans la loi. Et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Et j'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je plaçais dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Conséquence du péché. La souffrance que David a eue avant de devenir roi, on ne pouvait pas l'empêcher. Mais ça, il aurait pu l'éviter. S'il avait suivi dans la même ligne, il aurait été garanti une vie paisible, chers amis, comme celle de Joseph. Mais ici, il y a une conséquence que Dieu envoie précisément parce que Dieu est amour. Il a continué d'aimer David et David ne va pas perdre sa récompense, mais il allait subir les conséquences de ses actions. Le seul but par lequel Dieu permet ça, c'est qu'il ne le fasse plus. Chers amis, moi je connais un homme qui n'avait jamais pris au sérieux ce chemin. Il était baptisé, il venait parfois il ne venait pas, ou il s'éloignait et puis il revenait. Et sa conduite n'était pas exemplaire, jusqu'un jour il a eu le sida comme conséquence de ses péchés, de s'être éloigné du chemin de Dieu. Là, il s'est vraiment repenti, et puis il a pris les choses au sérieux, et Dieu ne l'a pas guéri. Il a amélioré les symptômes pour qu'il n'en souffre pas trop, mais il est mort dans la foi. Dieu l'a racheté, il a forcé Dieu de causer des conséquences pour sauver sa vie éternelle. Ici, c'est la même chose. Dieu donne à David des conséquences dans cette vie pour qu'il apprenne la leçon, pour qu'il ne le fasse plus. Et ça vous arrivera à vous et à moi. Quand on brise la loi de Dieu en la connaissant, on subit des conséquences plus grandes que ceux qui ne la connaissent pas, quoique eux, ils en subissent des conséquences aussi. Je vous démontrerai ça, chers amis, tout de suite, au chapitre 12 du livre de Luc, s'il vous plaît. Chapitre 12 du livre de Luc. Regardez, chers amis, je vous dis, si ce sermon est trop long, vous pouvez le couper en deux, mais moi je vais continuer. Chapitre 12 Et verset 47, 12-47 du livre de Luc. Voilà, c'est pour la crainte des dieux que je vous lis ça. Je le lis pour moi-même. Je n'ai pas fini ma course. Je ne suis pas en train d'accuser David. David a déjà été jugé, chers amis. Il va être dans le royaume des dieux. On va le lire tout à l'heure. Il n'a pas perdu sa récompense éternelle, mais il a appris ses leçons grâce aux conséquences que Dieu a permis à ses péchés. Il va faire la même chose avec nous, chers amis. Je vais voir si je trouve cette écriture aussi. Oui, chapitre 12, verset 47 de Luc. Verset 47. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître, les commandements de Dieu, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Nous allons le voir chez David. Il va perdre 4 enfants. La même sentence qu'il s'est dictée lui-même avec son péché en faisant mourir Uri, son serviteur fidèle, par l'épée de l'ennemi. Il va payer 4 fois, chers amis. Donc, c'est le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé. Je dis pour moi-même, je sais que je paierai un grand prix, très cher, pour mes péchés, si je ne continue pas dans le chemin des dieux. N'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, ce qui pêche par ignorance, ça continue encore d'être un péché, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu des peu de coups. Ceux dans les écoles, ils vont subir des conséquences, mais pas autant que vous, chers amis, chers jeunes. Si vous allez suivre leur conduite, vous paierez un prix beaucoup plus haut. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Voilà ce qui nous va arriver à nous autres. Et voilà maintenant la sentence des dieux sur David, son bien-aimé. Il dit, et d'ailleurs, maintenant l'épée, verset 10, chapitre 12 de Samuel, ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Il parle d'Absalom, son propre fils, de sa propre maison. Conséquence du péché, chers amis, que ça nous apprenne la crainte des dieux. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Voilà, chers amis, si on a des péchés secrets et on ne se repent pas, tôt ou tard, Dieu va les faire connaître pour que nous apprenions des leçons profondes et pour que nous ne soyons pas perdus pour l'éternité, chers amis. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Voilà. Il a un caractère de vouloir se repentir. C'est pourquoi Dieu l'aimait. Et c'est un exemple pour nous. Mais on va voir que Dieu, même s'il s'est repenti, il n'a pas enlevé les conséquences pour qu'il ne voit, pour qu'il ne les fasse plus. C'est très important de comprendre ça. David a dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. » « Tu ne mourras point », quoique David disait qu'il était digne des morts. Il ne savait pas ce qu'il disait, mais c'était sur lui qu'il dictait la sentence. « Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Voilà, le petit enfant qui est né de l'adultère est mort, chers amis. Mais ce n'est pas seulement lui, c'est le premier. On va voir les autres dans un moment. Je vais faire une petite pause ici et on va continuer, chers amis. Chers amis, on continue donc, comme je vous ai dit. David s'était dicté la sentence lui-même. Il fallait payer avec 4 brebis celle qu'elle avait sacrifiée d'après la parabole qui lui a été présenté par le prophète des dieux. Et c'est Dieu lui-même qui a inspiré cette parabole, chers amis. Donc, David connaissait la loi des dieux, il fallait payer avec quatre. Vous savez, le premier était le petit enfant né de l'adultère, comme le prophète lui a dit. Il a dit que cet enfant allait mourir. Dit au chapitre 12 et verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Souvenez-vous, Dieu pardonne le péché, mais il n'enlève pas les conséquences du péché. Très important de garder ça dans notre esprit. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc David, il avait caché son péché au moins 9 mois. Vous savez, on peut s'endurcir, chers sœurs et frères. Excusez-moi. On peut s'endurcir si on ne fait pas attention, chers amis. Et il allait. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Verset 15, chapitre 2. Chapitre 12, verset 15 de deuxième livre de Samuel. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. On sait que David jeûna pendant 7 jours et puis l'enfant mourut, chers amis. Mais Dieu est miséricordieux, une fois qu'il avait payé cette conséquence du péché, il lui a permis d'enfanter un autre fils qui s'appelait Salomon. Verset 24, chapitre 12, deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, Bathsheba. Il alla auprès d'elle, elle coucha avec elle et l'enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jéjidia, à cause de l'Éternel, ça veut dire aimé de l'Éternel. Mais la sentence n'était pas encore finie, chers amis. Comme il a dit, l'épée ne s'écartera pas de ta maison, dont le premier enfant, l'enfant de l'adultère, est mort. Mais après, qu'est-ce qu'on trouve? L'inceste d'Amon, chapitre 13. Je ne veux pas m'attarder là-dedans. Vous savez que l'un des fils de David s'appela. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Donc, il a permis que ses instants gouvernent sa conduite comme son père, malheureusement, comme Dieu, il permet les conséquences des pères par leur mauvais exemple d'affecter leurs enfants. Donc c'était le péché d'Amnon. Mais il y a eu conséquence par le mauvais exemple de David. Il a violé sa demi-sœur. C'était horrible. Après, il l'a méprisé. Vous connaissez l'histoire, chers amis. Donc c'est la deuxième victime à cause du péché de David. Et vous savez bien qu'après Absalom a invité Amnon au bout de 2 ans, quand il n'y avait plus de soupçons, et il l'a tué, il l'a fait tuer. En fait, trois fils de David. Et puis Absalom lui-même, comme Dieu l'avait dit, il s'est révolté contre son père, il a donné un coup d'état, son père a fui, et puis Absalom, quand il est allé à sa poursuite, il est mort en bataille, quoique le roi avait donné des ordres de ne pas le tuer, Joab, le général, tua Absalom, qui est mort en bataille. Voilà 4 enfants. Le premier, le fils de l'adultère. La deuxième, cette fille Tamar qui a été violée à cause des mauvais exemples de David. Amnon s'est permis de faire telle chose. Amnon a été tué à cause de ça. Et puis Absalom s'est révolté contre son père. Conséquence du péché, il a couché avec les femmes de son père sur la terrasse du palais. Et après, il a été tué en bataille. Toutes les conséquences que Dieu avait prédites, chers amis, et l'épée ne s'est pas encore écartée de la maison de David. Vous avez la royauté européenne et toute descendante du roi David, et ce n'est que les guerres qui ont marqué l'histoire de sa descendance jusqu'à nos jours. Et ça sera comme ça jusqu'au retour du Christ, chers amis. Donc, voilà une perspective des conséquences du péché. Cependant, ça ne veut pas dire, néanmoins, que l'Éternel ait enlevé pour toujours la récompense éternelle. David n'a plus jamais commis des péchés de ce genre-là jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort dans la justice et Dieu, vous le savez bien, comme il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, va les ressusciter dans les mondes à venir. Au son de la septième trompette, Dieu le dit clairement dans le chapitre 34 d'Ézéchiel, verset 23. « J'établirai sur elle un berger, en parlant des brebis d'Israël, qui les fera paître mon serviteur David. » Ézéchiel a écrit ça 400 ou 500 ans après la mort de David, chers amis, 500 ans après. J'établirai sur elle un berger, un seul berger, qui les fera paître mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Donc, il y a le pardon, il y a la récompense éternelle, mais il y a eu les conséquences. Donc, mes amis, pour conclure, on n'est pas encore conclu, mais on va voir un exemple dans le Nouveau Testament, chers amis, que je ne veux pas vous laisser sans que vous l'écoutiez. Je veux que vous vous reportiez, s'il vous plaît, au chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres. Chers sœurs et frères, on continue ici avec l'aide de Dieu. On est ici au moment où Étienne donne son discours. Étienne, le premier martyr. Et voyons ce qui arrive quand ses ennemis, quand il a dit, quand il voulait le détruire, parce qu'il parlait la vérité, chers amis, il était inspiré par Dieu. Et au chapitre 7, verset 56 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 56, vous voyez ce qu'il dit, voici, « Je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite des dieux. » Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, tellement ils étaient remplis de haine. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les impute pas ce péché. » Et après les paroles, il s'endormit. Voilà la mort du premier martyr. Mais ils ont mis leurs vêtements au pied d'un jeune homme qui s'appelait Saül ou Saul. Je ne sais pas comment vous le prononcez. Le Saül de l'Ancien Testament, c'est clair. Donc, chapitre 8, je vais prononcer Saül, vous m'excusez si ce n'est pas correct. On peut dire Saul aussi, d'après la phonétique française. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, on continue ici cette histoire. Et au verset 3, chapitre 8, verset 3. Saül ou Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes. Il le faisait jeter en prison. Donc d'abord, il a été là témoin. On va voir qu'il a voté pour l'exécution d'Étienne. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, il continue à persécuter l'Église. On continue au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Cependant, Saul ou Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine hommes et femmes, et les amènent liés à Jérusalem. Vous savez ce qui lui est arrivé quand il était en chemin vers Damas? Dieu le fait tomber. Et puis, il y a la conversion de Paul. On va l'appeler Paul, hein, pour ne pas commettre ici des problèmes de... Une fois qu'il est converti, donc, qu'est-ce qu'il arrive? Dieu appelle un homme, l'un des saints, des vrais chrétiens, à Damas, pour qu'il aille baptiser celui qui deviendrait l'apôtre Paul. Au verset 13, chapitre 9, verset 13, voici ce que Anani répond au Seigneur, Ananias. Verset 13, Seigneur, chapitre 9, des apôtres, des actes des apôtres, verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints. Souvenez-vous, les saints sont ceux qui gardent le commandement de Dieu et ont la foi de Jésus. Chapitre 14, verset 12 de l'Apocalypse. Dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Nous allons voir, chers amis, qu'il y a des conséquences, même si l'apôtre Paul sera dans le royaume de Dieu. Il a appris des leçons profondes. Mes chers sœurs et frères, nous allons regarder ici, par exemple, au chapitre 13 du livre, au chapitre 13 du livre des Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul s'est trouvé dans son premier voyage en mission pour prêcher l'Évangile, premier voyage missionnaire, chapitre 13, et puis on va au chapitre 14, et vous allez trouver ce qui est arrivé dans la ville en Icône. Donc, c'est voir ce que cette écriture, ce qui lui est arrivé à l'apôtre Paul, au chapitre 14, verset 19. Excusez-moi, frère, sœur. Chapitre 14, verset 19, c'est voilà ce qui est arrivé. Il prêchait. Chapitre 14, verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Donc, il a été lapidé quand il avait, bien sûr, approuvé la mort d'Étienne. Voyons comment l'apôtre Paul décrit lui-même ce qu'il faisait contre les frères. Nous allons le voir quand il était, elle a été fait prisonnier. Au chapitre 22, verset 19, voyons une des confessions de l'apôtre Paul. Actes des apôtres, chapitre 22, verset 19. Actes des apôtres, chapitre 22, verset 19. Lisons, chers amis, verset 19. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il m'a dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Puis on continue, Paul fait encore une autre confession au chapitre 26 et verset 9. Chers sœurs et frères, voici les confessions des péchés qu'il avait commis dans l'ignorance, mais nous allons voir qu'un péché par ignorance est toujours un péché. Chapitre 26, verset 9, des Actes des Apôtres. Chapitre 26, « Pour moi, dit l'apôtre Paul, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre les noms de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Je les torturais dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Alors voilà la confession de l'apôtre Paul. Maintenant, nous allons voir la description de tous les travaux qu'il a dû subir dans son ministère. Regardons pour un moment, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, au chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens. Chapitre 11, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11. Regardons ensemble. Verset 23. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. On continue. Il dit, l'apôtre Paul, « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en termes extravagants. Je ne le suis plus. Encore, par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. » C'est-à-dire, il a été mis en prison beaucoup plus que tous les autres apôtres. Pourquoi ? Vous le savez déjà, des conséquences, chers sœurs et frères. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 5 fois. Je vous assure qu'aucun des apôtres a été battu comme ça. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout ce qu'il faisait aux frères. Le voilà devant nous, chers sœurs et frères, des conséquences que Dieu a permis pour parfaire, pour perfectionner son caractère, chers sœurs et frères. 3 fois, j'ai fait naufrage. Je passais un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'étais en péril sur les fleuves. Il était en péril pour les frères. En péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi de faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc, voilà, chers frères, un portrait vraiment remarquable des conséquences, des erreurs que Dieu a permis qu'il en subisse dans la suite de ses jours pour parfaire son caractère pour l'éternité. Et nous voyons que lui, il a pris ses leçons, et nous allons lire sa déclaration dans la deuxième épître à Timothée, chers sœurs et frères. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4. Nous voyons les paroles dernières que nous voyons qui sont consignées dans la Bible de la part de l'apôtre Paul, chers sœurs et frères. Deuxième épître à Corinthiens. Donc, malgré le fait qu'il a été pardonné de ses péchés, Dieu n'a pas enlevé les conséquences. Chapitre 4, verset 7. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 7. Mais commençons verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation, le moment de mon départ approche. j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous sommes parmi ceux-là, chers sœurs et frères, si nous apprenons les leçons que Dieu veut que nous apprenions. Il y a une souffrance qui est nécessaire pour parfaire notre caractère, même si ce n'est pas la conséquence des péchés. Et puis il y a une souffrance que Dieu permet comme conséquence pour que nous ne répétions pas nos péchés, et pour nous enseigner des leçons profondes pour que nous puissions jouir d'une éternité de bonheur. Voilà la finalité de la souffrance, le bonheur éternel. Chers sœurs et frères, que l'Éternel vous garde toujours. Je vous aime et ça sera à la prochaine.